Auditeurs, auditrices de FM+, bonjour, bienvenue dans l'émission Sous le pavé le récif, une émission locale faite par et pour les habitants du quartier. On commence tout de suite. Il existe à Montpellier, en plein cœur de ville, un beau terrain public arboré de 11 160 mètres carrés. Il y a peu encore classé par la ville, espace boisé, classé à conserver, qui est aujourd'hui complètement clôturé et ne sert à rien, alors que le quartier, très pollué, ne dispose d'aucun jardin public. C'est l'ex-hôtel de police, avenue Georges Clémenceau. Une pétition circule pour que la ville loue le terrain au ministère de l'Intérieur et l'ouvre au public, en assurant l'entretien et le gardiennage. Association, site inscrit et classé de Montpellier, 1995. Eliane, bonjour.
Bonjour.
Donc ce texte vient d'une affiche de 95.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'elle veut dire ?
Alors cette affiche, elle a été faite par, écrite de la belle main d'Anne Rousseau, qui était professeure de lettres, et qui a, avec ce petit texte et cette belle affiche, incité les habitants du quartier à se fédérer pour obtenir, sur le site de l'ancien commissariat de police, un parc qui désormais est le parc Georges Clémenceau.
Et donc là, vous êtes des citoyens, vous voyez cette affiche, il y a un numéro de téléphone en bas de page, vous êtes plusieurs à répondre à cet appel et à vous réunir. Et c'est comme ça que l'association Pavé est née ?
Exactement, on s'est réunis au DOM. Et l'association, au départ, elle a été portée par quatre femmes. Donc Anne Rousseau, qui a été la première présidente, Denise, Florence et Cathy. Donc au départ, c'est parti de l'association des sites inscrits. Et dès septembre 1995, c'est devenu l'association Pavé, Protection Atmosphère Verdure.
Et donc là, à partir de là, vous vous réunissez toutes les quatre. Au début, vous n'êtes que quatre, c'est ça ?
Elles sont quatre et elles invitent les gens à les rejoindre. Et donc on les rejoint dans ce qui est devenu notre QG, la brasserie du Dôme. Et à partir de là, il y a un groupe de citoyens, citoyennes du quartier qui ne se connaissaient pas et qui œuvrent pendant 8 années pour obtenir le parc Clémenceau.
Alors ça, vous œuvrez, et elles œuvrent à base de pétitions, de courriers, de presse, c'est ça ?
Oui, au départ c'est un volet plus, il y a la mobilisation des citoyens à travers les signatures de pétitions, donc devant le site il y a régulièrement des permanences pour faire signer les pétitions, mais moi je dirais que jusqu'en 99 c'est un volet très institutionnel où il y a eu pas mal de courriers écrits aux différentes instances, donc au ministère de l'Intérieur puisqu'il était propriétaire du terrain, au ministère de l'Environnement parce qu'on espérait son soutien, et puis aux différentes collectivités locales.
Alors à ce moment-là, pour bien resituer pour les gens, le parc Clémenceau, ce qui deviendra plus tard le parc Clémenceau, est un terrain vague où il y a encore l'hôtel de police dessus, ou c'est détruit déjà ?
Non, c'est déjà détruit, mais par contre il y a un mur d'enceinte, donc on ne voit pas du tout le site de l'extérieur.
Ok, donc en fait il y a un mur et vous savez qu'il y a quelque chose derrière qui est disponible.
Voilà.
Vous savez ce que le gouvernement veut en faire, enfin en tout cas le ministère de l'Intérieur, mais vous n'en savez pas plus.
Voilà, le ministère de l'Intérieur souhaite reconstruire, a priori le ministère de l'Intérieur souhaite reconstruire le commissariat central sur place. Et ce projet-là, il est abandonné en 1996.
Ok.
Tout à l'heure Catherine vous expliquera pourquoi. Et notre première grande victoire, c'est en 1998, puisque dans le texte, il est dit que les arbres étaient classés. Nous, on appelle ça la raquette centrale avec les vieux arbres. Ces arbres, ils étaient classés, donc ils ne pouvaient pas être coupés. Mais l'État, pour reconstruire le commissariat central, les avait déclassés.
Ouais.
Et donc notre première grande victoire, c'est l'obtention du reclassement de la partie boisée en espace classé boisé à conserver, 1998.
Donc là, c'est la raquette intérieure. Donc pour les gens se situent un peu, pour ceux qui connaissent, c'est la partie intérieure du chemin du parc Clémenceau.
Oui, dès qu'on a. Alors bon, maintenant l'entrée est en train d'être déplacée, mais quand on entrait, on tombait sur de vieux arbres, notamment un vieux pin, un très vieux pin.
Un très gros arbre qu'il y a au milieu.
Exactement, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la raquette. Donc ces arbres-là, ils sont classés. Ils sont reclassés maintenant, donc ils ne peuvent pas être coupés.
Et donc là, en 98, il y a la révision, les arbres sont reclassés, et le maire annonce la création du parc.
Le maire annonce la création d'un square, en fait, de 3000 m² autour de cette raquette. Okay. D'arbres, voilà. Et nous, et donc l'acquisition est prévue, l'acquisition de cette partie-là seulement, est prévue sur le budget 98. Et nous, on relance une pétition pour que le ministère de l'Intérieur vende la totalité du terrain à la ville et non pas le terrain en lot. Donc une partie à la ville, une partie à des promoteurs immobiliers. Et on relance une pétition pour demander un parc sur la totalité du terrain.
Donc sur les 11 000 mètres carrés.
C'est ça, il y a 11 160 mètres carrés.
Plutôt que les 3 000 de la raquette intérieure.
Voilà. Et petit à petit, on grignote. Y a un moment donné où le maire dit « Bon, ok, allez, ok. » pour Parce que en fait, en plus, cette raquette centrale, s'il y avait eu des immeubles autour, bah, c'était le square
d'une partie privée, oui.
Exactement, ça devenait un square privatif. Donc on a obtenu d'abord que la ville achète 6 000 mètres carrés et que tout soit ouvert sur Clémenceau. Donc que ce soit vraiment un square public. Mais on a quand même continué nos actions pour obtenir le rachat de la ville, le rachat de la totalité du terrain par la ville. Donc il y a eu un moment clé en 99. Monsieur Chevènement, qui était ministre de l'Intérieur, est venu signer un contrat local de sécurité. Et nous, là, en un week-end, on a réussi à quelques-uns à récupérer 800 motions de soutien qu'on a déposées à Monsieur Chevènement, à un membre de son cabinet, pour demander le rachat de la vente du terrain, puisque le terrain était le ministère était vendeur à partir de 99 seulement. Et donc, on a demandé qu'il vende la totalité à la ville. Et à l'époque, ils nous ont dit, ben, c'est, en général, c'est ce qui se fait. Voilà. Mais M. Georges Frêche souhaitait acheter un bout pour faire un jardin. Et le reste, ben, c'était le ministère qui vendait à des promoteurs pour une promotion immobilière. C'était une façon un peu de se dédouaner.
Ouais. Et du coup, le ministère de l'Intérieur est vendeur. À combien, à peu près, on sait
Alors, à l'époque, le ministère de l'Intérieur était vendeur, mais à condition de récupérer l'argent qu'il avait déjà investi pour la destruction du commissariat et pour l'achat de certains immeubles autour du terrain pour la reconstruction d'un nouveau commissariat. Donc, ça correspondait à 20 millions de francs.
Alors, 20 millions de francs, ce qui correspond à 4,6 millions aujourd'hui, après, pour que les plus jeunes qui nous écoutent, qui n'ont pas connu les francs, arrivent à se repérer. Du coup, en fait, ce que voulait faire le ministère de l'Intérieur, c'était récupérer toutes les billes qu'ils avaient mises dans tout le gros projet qui était le commissariat central.
Exactement. Et la ville achetait, du coup, un terrain au prix du terrain constructible. Ce qui faisait dire à Georges Frêche que c'était le parc le plus cher d'Europe. Mais il n'avait pas encore décidé d'en faire un parc sur la totalité.
Ouais. Et alors, du coup, après ça, donc le terrain est racheté par la municipalité.
Oui.
Quelque part, c'est une victoire pour vous, mais il reste encore à faire en sorte que la municipalité accepte d'en faire un parc.
Exactement. Donc là, en avril 2000, Monsieur Dugrand, qui était l'adjoint à l'urbanisme, nous convie à une réunion, à un horaire pensé, à 16h, soi-disant pour que tout le monde puisse participer. Bon, on s'est tous organisés pour y participer, en effet, et nous présenter donc un projet de ZAC avec 3000 mètres carrés de jardin et 200 logements.
Alors, qu'est-ce que c'est une ZAC ?
Une ZAC, c'est une zone d'aménagement concertée.
D'accord, donc en fait, c'est une demande citoyenne de...
Non. Ah non.
C'est l'inverse, c'est la municipalité qui vient demander aux citoyens ?
Non plus, en fait, je pense qu'il y a eu cette réunion de concertation. Peut-être qu'elles sont obligatoires pour le lancement de toutes les ZAC, mais une ZAC, c'est un outil juridique.
D'accord.
Oui, enfin, je ne suis pas spécialiste en urbanisme.
Bien sûr, oui.
Voilà. Et donc, dans la foulée de cette réunion où on a réussi à remplir la salle à 16h, il y a eu une concertation où les personnes se sont déplacées. Pourtant, c'était pendant les vacances scolaires. Et il y a une centaine de personnes qui sont venues déposer des messages en faveur d'un parc sur la totalité du terrain. Et du coup, le projet de ZAC a été gelé. Ça a été une victoire pour nous, notre deuxième victoire.
suite au courrier, enfin aux lettres que les citoyens ont laissées, ça a vraiment eu un impact et un poids.
Visiblement oui, puisque la réunion a eu lieu en avril.
Ouais.
Et en avril et après cette concertation, il y a eu le gel de ce projet. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un architecte qui était parti en vacances. Qui était parti déposer ses enfants en vacances, qui était resté pour déposer, pour participer, ouais, à l'appel d'offres. Et puis, quand il est allé chercher ses enfants et qu'il est revenu, ben, il a appris le gel de la ZAC.
Et donc, il perdait un projet potentiellement, ouais, sur lequel il pouvait participer.
Oui.
Il avait bien fait de rester, finalement.
Donc, nous, à ce moment-là, vraiment, c'était le volet mobilisation de la population. Donc, en mai 2000, on a lancé une opération 1 franc, 1 centimètre carré de verdure. Bon, c'était symbolique parce qu'avec 1 franc, on n'aurait pas acheté 1 centimètre carré de verdure. Mais c'était une façon de mobiliser les gens. Il y avait des petites cagnottes dans tous les commerces du quartier. Et avec cet argent-là, quand le parc a ouvert, on a offert un arbre qui est toujours dans le parc.
Ok. Donc là, ça y est, tous les projets de la municipalité sont gelés, mais il reste on n'est toujours pas encore au parc. Et c'est en 2001 que vous allez faire en sorte que sur tous les projets, dans tous les partis politiques qui se présentent à la mairie, il y ait le parc qui soit inscrit, c'est ça ?
C'est ça. En 2000-2001, ça a été vraiment une année décisive. C'était l'année des municipales. Mmh. Et donc là, on a mené une action par mois. On a commencé en mai, avec un franc symbolique pour un jardin et puis un apéro mentalo devant le parc. Et ensuite, on a mené une action par mois jusqu'à un mois des municipales. En février 2001, la dernière opération, c'était un concert des Fabulous Troubadours.
Mmh.
Et donc là, on s'est arrêté. On a laissé les gens réfléchir jusqu'en mars. Et en mars, il y a eu les élections municipales. Et c'est là que le parc s'est en partie joué. Parce qu'en fait, les Verts ont fait 11%.
Mmh.
Ils ont négocié la fusion de leur liste avec celle de Georges Fraîche. Et comme dot, il y avait le parc à Clémenceau. Mais ça, c'était en mars. Et puis, dès avril, Georges Fraîche a lancé un nouveau pavé dans la mare en proposant aux commerçants des Halles les Sacs de les déplacer sur le site de Clémenceau, parce que vraiment, ils voulaient rentabiliser ces 20 millions de francs. Et donc, il leur a dit, moi, je vous fais une halle neuve, vous quittez les Halles les Sacs un vendredi et vous intégrez une halle neuve le lundi sur Clémenceau. Donc là, ça a été un gros moment aussi, où nous, on est allés voir les commerçants, on leur a dit, bon, une halle neuve plus le même nombre de places de parking, nous, on continue nos actions, quoi.
Bien sûr. Et voilà. Vous avez continué jusqu'en 2023.
Oui, mais quand même, en décembre 2001, notre troisième victoire, ça a été le rachat de la ville de l'ensemble du terrain sur deux exercices, 2001 et 2002. Et avec le refus des commerçants des Halles les Sacs de se déplacer, Fraîche a dit, pavé a gagné, il y aura un parc sur la totalité du terrain.
Donc l'inauguration est le 19 avril 2003.
Voilà, entre-temps il y a eu des réunions de concertation avec l'adjoint aux espaces verts, monsieur Roumégas.
Très bien, on va faire une petite pause musicale avec l'histoire du quartier et du... pas du tout, ça c'est le titre de la partie Excusez-moi, avec l'histoire... Je sais pas, le titre est Histoire de pavé. Eliane, est-ce que tu peux nous en toucher deux mots de ce morceau-là, parce qu'il me semble que ça vient de l'association Pavé.
Oui, alors on a toujours milité dans la bonne humeur et c'est Richard qui nous a toujours fait des chansons pour militer pendant ces 8 ans.
On écoute.
Cette histoire que l'on a racontée, elle vient de la mémoire des 10 ans de pavé. Elle parle d'espérance au milieu d'un quartier, dans le sud de la France, ici à Montpellier. Dans le sud de la France, ici à Montpellier. À deux palais bâtisses, il y avait un grand terrain, on ne peut plus propice pour faire un beau jardin. Mais la finance en quête de biens immobiliers, préparez ces charrettes de béton et de gravier. Préparez ces charrettes de béton et de gravier. Et Les années qui passèrent, le sang fut disputé. Les habitants se mêlèrent de ce qu'ils regardaient. Et un jour le soleil sont tous venus émus. Le jardin en sommeil leur était revenu. Le jardin en sommeil leur était revenu. La morale de l'histoire, c'est que tout peut changer. Ne suffit pas d'y croire, il faut se mouler gai. L'obstacle le plus lourd paraît le plus léger. Les fleurs poussent toujours au milieu des pavés. Les fleurs poussent toujours au milieu des pavés.
Nous sommes de retour avec, toujours sous le pavé, le récif, et nous sommes aussi avec Catherine qui a fait un gros travail d'archivage de l'histoire de ce parc qui remonte jusqu'au XIe siècle.
Alors, je suis partie des premiers travaux de recherche sur l'histoire du terrain qui avaient été faits par Anne Rousseau, la première présidente de Pavé. Et donc elle remontait au XIe siècle. Et le travail d'archives que j'ai fait, c'est plutôt essayer de combler certains trous de la période de fin du XIXe et XXe siècle. Voilà.
Et alors, du coup, XIe siècle, Montpellier s'arrête à Observatoire de ce côté-là. À peu près, c'est ça, parce qu'il y a encore les prémices des remparts. Mmh. Mais le parc est plus loin.
Alors, ce n'est pas un parc.
À ce moment-là, ce n'est pas un parc, effectivement.
C'est la campagne.
Ouais.
Voilà, on est complètement hors les murs. Et au XIe siècle, c'est même pas une ville, hein, c'est un gros village.
Okay.
Montpellier existe depuis 2 siècles, donc c'est une ville assez récente. Mmh. Hein, ce n'est pas comme Nîmes ou Béziers, qui sont des villes romaines. Montpellier, ce n'est pas le cas. Mais au XIe siècle, il devient un peu petite. Enfin, le cimetière intérieur de Montpellier devient un peu trop petit. Et il est décidé, l'Église décide de trouver un terrain pour bâtir une église, un hôpital et un cimetière. Et sur ce qui est aujourd'hui le terrain du parc, il y a essentiellement un cimetière.
D'accord. Donc, pendant les travaux, il y a un moment où ils ont saccagé un cimetière, à une époque.
Oui, ça a été saccagé, en fait, pendant les guerres de religion.
À quelle époque, à peu près ?
16e siècle.
Ok. Et donc, là, l'église, c'est l'église Saint-Bartholomew, qui deviendra Saint-Barthélemy.
Oui, à une époque. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la même que la chapelle qui est à l'intérieur de l'école aujourd'hui, de la Providence, mais c'est dans ce coin-là. Voilà. Sur ce terrain-là, il y a effectivement cette église Saint-Bartholomew, qui est à côté du cimetière.
Et suite à quoi, guerre de religion, les religieux fuient à l'intérieur des remparts. Donc ce lieu est abandonné.
Oui, pour un temps.
Pour un temps, et reconstruit par-dessus.
Ça, je ne sais pas bien.
D'accord.
Voilà, je n'ai pas cherché ça. À partir de 1622, il y a la reconquête catholique de la ville de Montpellier. Et à ce moment-là, est construit un couvent dit des Carmes des Chaussées, quelques années plus tard, deviendra le couvent des Dames de Saint-Charles de Lyon.
Ok.
Et qui est vraiment l'origine de ce qui existe aujourd'hui sur le lieu de la Providence, de l'école de la Providence.
L'école qui est en face, pas du tout.
Non. L'école qui est à côté.
Ah oui, l'école privée de la Providence. Oui. D'accord. Oui. Et donc, les traces suivantes que vous trouvez, c'est celle du 19e siècle.
Voilà, alors c'est surtout ça que j'ai cherché. C'est-à-dire, dans un premier temps, j'ai cherché qu'est-ce qu'il y avait dans le quartier, à quoi ressemblait le quartier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit progressivement au cours du 19e siècle, ce quartier où il y avait essentiellement des campagnes qui étaient autour de la route qui allait vers Toulouse et qui s'appelait d'ailleurs la route de Toulouse.
Qui deviendra la route de Clémenceau.
L'avenue Clémenceau, oui, mais en plusieurs étapes. Cette route, autour de cette route de Toulouse, il y a quasiment... Le premier plan que j'ai trouvé, c'est 1834. Mmh. Il n'y a quasiment rien, à part de la campagne et le couvent.
Ok.
Voilà. Et autour du couvent, il y a ce terrain qui, en fait, depuis le XIe siècle, appartient à l'Église.
D'accord.
Voilà. Même si, à certains moments, il lui a échappé un peu, mais bon, il appartient à l'Église, quoi. Après... j'ai pris en compte un deuxième plan qui date de 1864. Et donc là, on est sous le Second Empire. Donc la route de Toulouse est devenue l'avenue de Toulouse. Et puis après l'octroi, qui est au bout de ce qui est aujourd'hui l'avenue Clémenceau, la route qui suit, qui est là, en fait aujourd'hui l'avenue de Toulouse, s'appelait la route impériale de Lyon à Béziers. Voilà, donc on voit ça. On voit que le couvent des Dames de Saint-Charles est toujours là, mais toujours entouré de verdure. Mais il commence à y avoir une rue qui fixe une limite à, ce terrain. C'est la rue Chaptal, qui a été créée entre 1834 et 1864, puisqu'elle n'est pas sur le premier plan et elle est sur le deuxième.
Donc, en fait, Ballard, c'est une, Chaptal, c'est une vieille rue aussi par rapport au reste du quartier.
C'est une des... Oui, alors, avant Chaptal, il y avait un chemin qui s'appelait le chemin aux bœufs, je crois, quelque chose comme ça, qui est un chemin qui était dans la campagne.
Ouais.
Et en 1864, il y a cette première rue qui s'appelle la rue Chaptal. Après, après j'ai trouvé un plan de 1896, et là, on voit que l'urbanisation devient vraiment sensible. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles rues tout autour. Mmh. La rue Danvesset existe, la rue Ballard existe. Et puis, il y a eu des constructions, et en particulier la construction du lycée de jeunes filles. Qui est le premier lycée public de filles en France, en compétition avec un lycée à Nantes.
D'accord.
Voilà, les deux villes rivalisaient pour être les premiers. Bon, on ne va pas pinailler. On est un des deux premiers lycées de jeunes filles de France. Voilà. Et le plan en 1896 de ce lycée est assez proche de ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de changements. Voilà. Donc on peut considérer qu'à la fin du 19e siècle, la zone qui est de plus en plus urbanisée commence à ressembler à un faubourg de la ville. Ce n'est plus la campagne.
Voilà. Ensuite, 20e siècle, les Sœurs Saint-Charles de Lyon louent à la mutualité un pavillon.
Voilà, alors ça c'est donc sur ce qui est aujourd'hui le terrain du parc, la mutualité loue un pavillon qui existe déjà aux Sœurs de Saint-Charles de Lyon et qui est au milieu d'un jardin. Mais du jardin aussi, parce que c'est là que sera Clémenceau. Et donc ce pavillon va devenir la première clinique mutualiste de France et va être inaugurée en octobre 1910. C'est une clinique chirurgicale qui ne soigne que les adhérents des mutuelles de la région et viennent se faire soigner des gens d'un peu toute la région Languedoc-Roussillon, ce qui est devenu ça. Elle est vite trop petite, donc en 1924, ils construisent une première aile supplémentaire. Et puis, en 1931, ils décident de faire une annexe, donc de construire une deuxième clinique mutualiste, avenue de l'Odève. Et en 1934, c'est fait. Donc à ce moment-là, en 1934, il y a deux cliniques mutualistes à Montpellier, une avenue Clémenceau et une avenue de l'Odève. Voilà, donc donc dans un premier temps, il y a ces deux cliniques qui coexistent d'une certaine façon. Et au bout d'un moment, ils décident d'abandonner celle de Clémenceau et de ne garder que ce qui est aujourd'hui la clinique Beau Soleil. Et dans le local, ça devient un local à archives.
Puis la guerre éclate. La Seconde Guerre mondiale éclate, la police de Vichy réquisitionne les locaux et enfin un commissariat.
Voilà, oui, exactement. Donc ça, c'était ce qui a été difficile à trouver, mais que j'ai fini par trouver. En octobre 1942, le commissaire central il réclame un hôtel de police, comme à Béziers. Et en mars 1943, il a, parce qu'on trouve des courriers qui sont adressés au commissariat central, qui à ce moment-là est au 22 bis avenue Clémenceau.
Et pour finir plus tard, en 1980, les locaux sont trop petits. Il faut reconstruire, donc ils détruisent le commissariat. Et c'est là qu'on revient jusqu'en 1995, où Pavé arrive pour construire pour militer pour ce parc.
Oui, c'est ça.
On arrive doucement vers la fin, mais pas totalement encore. Une dernière pause musicale avec « On était là », encore avec le même principe, des reprises écrites par Richard, chantées par Pavé.
C'est ça ? Exactement.
Jardin pour tous les enfants, pour le quartier, pour Montpellier et tous ses habitants, pour un beau jardin, on était là, et aujourd'hui on fête ça. Pour un beau jardin, on était là, et tous les jours on y veillera. Pour le collège, pour tous les enfants, pour le quartier, pour Montpellier et tous ses habitants. Pour le collège, on était là, et aujourd'hui on fête ça. Pour le collège, on était là, et s'il le faut, on mettra ça. Pour un beau jardin, pour tous les enfants, pour le quartier, pour Montpellier, tous ses habitants, pour un beau jardin, on était là, et aujourd'hui on fête ça. Pour un beau jardin, on était là, et tous les jours on y veillera. Pour un beau jardin, on était là, et tous les jours on y veillera.
Sous le pavé, le récif, dernière partie, nous sommes toujours avec l'association Pavé, avec Eliane et Catherine. Alors Pavé, vous avez milité fortement pour la création du parc, mais vous êtes aussi citoyen-citoyenne et vous avez eu d'autres combats qui ont gravité autour de ce lieu, qui ont gravité dans le quartier, notamment avec le collectif de la ligne 2. Vous avez milité à un moment pour que la ligne 2 puisse arriver et passer devant le parc Clémenceau et desservir ce quartier-là.
Exactement. On a parfois un peu quitté nos plates-bandes. Donc pour le tramway, et notre slogan, c'était le quartier Clémenceau, son collège, son parc, son collège, son tramway.
Et on vous a dit que c'était pas possible physiquement, techniquement, de faire passer le tram ici.
De faire passer le tram, parce que nous, on défendait le passage sur Clémenceau et le contournement de l'Écusson. Et à l'époque, les techniciens nous ont dit que c'était impossible.
Or, c'est marrant parce que finalement, c'est ce qu'ils vont faire quelques années plus tard.
Exactement.
Et alors, dans vos combats, il y a aussi eu la défense du collège Clémenceau.
Parce qu'en fait, quand le parc quand on nous a annoncé le rachat par la ville et l'ouverture du parc... On nous a dit qu'on allait fermer le collège et on nous a un peu traité de capricieuses. Le CA de Pavé était exclusivement féminin. On voulait tout. Ben oui, nous, on ne voulait pas que le collège ferme parce qu'on voulait qu'on voulait maintenir la continuité pédagogique dans le quartier, de la maternelle jusqu'au lycée. Et ils voulaient fermer le collège pour donner plus de place au lycée. Et donc, on s'est battu en 2002. On a obtenu gain de cause et puis rebelote en 2005, ils ont commencé par fermer une classe. Et donc on s'est dit, c'est le début de la fin du collège. Donc on a continué. Et aujourd'hui, le collège est toujours là et le tramway passe, c'est pas la ligne 2 mais la ligne 5, passe à Clémenceau.
pour lequel vous avez aussi participé un peu, vous êtes intervenu, vous avez...
On a créé, oui, parce qu'en fait, ce projet était dans les...
Dans les cartons.
Dans les cartons de la ville, mais Monsieur Sorel a prononcé un moratoire, et donc nous, on a créé dans le parc Clémenceau le collectif Ligne 5, qui a regroupé toutes les associations depuis La Vérune jusqu'à Clapiers.
Ah oui, donc ça fait quand même...
Ça correspond à la ligne 5 de tramway.
Ok. Alors, merci beaucoup Eliane et Catherine. On va passer à l'actualité. Tout de suite, je laisse la place à Charlotte.
Merci. Alors oui, effectivement, en juin et en mai, il va se passer énormément de choses. Tout d'abord, les guinguettes qui vont avoir lieu au parc Clémenceau tous les vendredis du mois de juin, à partir du 30 mai. Oui, c'est un petit peu... contre-indicatif, mais voilà. Le programme, ça sera des buvettes, des spectacles, un village associatif, une scène d'artistes, des animations. Bref, c'est gratuit et ouvert à tous et on vous y attend de pied ferme. Mention spéciale pour la dernière qui accueillera le repas de quartier organisé par l'association Pavé.
C'est de quelle heure à quelle heure ?
C'est à partir de 18h jusqu'à 22h, il me semble. Ce soir, si aussi vous avez... encore envie de revoir nos têtes récifiennes. Comme chaque troisième vendredi du mois, le Récif vous proposera son vendredi du Récif au 9 rue Chaptal pour une soirée jeu de 18 à 22h également. Et si la guinguette vous intéresse et que vous avez envie de nous donner un petit coup de main, il y aura un point information à cette soirée jeu et vous pouvez aussi vous inscrire en tant que bénévole sur nos sites web lerécif.fr. Pavé propose un vide-grenier le 15 juin, qui se passera au parc Clémenceau, de 9h à 16h. Les inscriptions ouvriront à partir du lundi 19 mai, et elles seront possibles via Hello Asso. Enfin, une exposition au studio 411, l'exposition de l'artiste local Fonk, qui aura lieu du 22 mai au 21 juin. C'est sa première exposition solo, donc n'hésitez pas à y passer. Ses œuvres sont inspirées du street art. Son travail explore le mouvement, l'énergie et le jeu des formes et des couleurs. Nous vous conseillons d'y aller. Et si vous avez envie d'en profiter avec des petits fours, le vernissage aura lieu le jeudi 22 mai à 18h.
Merci Charlotte, merci Eliane et merci Catherine. Merci Catherine pour ce gros travail d'archivage que tu as fait pour les 20 ans du parc. Vous pourrez retrouver certaines informations, certaines archives dans les différentes publications Instagram et Facebook du Pavé et du Récif, ainsi que dans le descriptif sur le site de FM+, voilà, pour que vous puissiez aussi un peu imager et vous rendre compte de ce qui a été fait pendant 20 ans finalement, parce que c'est à peu, 20 ans.
Parc a 22 ans et pour l'obtenir ça a duré 8 ans.
Et l'association de 95...
À bientôt 30 ans.
À bientôt 30 ans. Donc pendant 30 ans, il ne s'est pas rien passé. Donc il y a beaucoup d'archives. Et c'est pour ça qu'on vous en a trié quelques-unes pour que vous puissiez aussi vous rendre compte de ce que ce travail a été et de l'évolution de ce magnifique parc qu'on essaye de faire vivre et que les citoyens continuent à faire vivre. Et d'ailleurs, parlant de citoyens, la prochaine émission dans un mois sera beaucoup plus sur l'actualité présente et sur sur l'appropriation des citoyens de ce parc, parce qu'aujourd'hui il vit, alors il y a toujours Pavé qui est dans les parages et qui veille au grain, mais les citoyens se sont vraiment vraiment appropriés les lieux. Il y a vraiment des habitués, il y a des associations qui font des événements. Alors nous c'est comme ça avec le Récif qu'on a rencontré Pavé, mais on n'est pas les seuls à faire des choses dans ce parc. Voilà, donc la prochaine émission tournera beaucoup beaucoup autour de ces sujets-là et beaucoup plus sur le présent finalement. C'est pour ça qu'on voulait faire d'abord l'histoire, pour que vous puissiez comprendre et écouter les deux émissions d'affilée. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de FM+, que vous pourrez écouter en podcast, excusez-moi. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram Le Récif collectif ou sur Facebook Le Récif tout court. Et vous pouvez aussi retrouver l'association Pavé sur Instagram, Association Pavé, et sur Facebook Association Pavé aussi. N'écrivez pas l'eau aussi. Merci beaucoup. Sachez que pour les guinguettes, vous pouvez toujours devenir bénévole si ça vous intéresse. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous via les réseaux ou via notre site internet. Pavé sera bien évidemment présent. Vous êtes sur FM+, 91.0. Merci beaucoup et bonne journée.